Dupin sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de la Passion. Quand ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples en leur disant
« Allez jusqu'au village en face de vous. Aussitôt, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. Déliez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» dites « Le Seigneur en a besoin, mais aussitôt, il le renverra ici. »
Ils s'en vont et trouvent un ânon attaché près d'une porte dehors au carrefour. Ils le délient. Quelques-uns de ceux qui se tiennent là leur disent
« Que faites-vous à délier l'ânon ?»
Ils leur disent comme Jésus a dit, et ils les laissent. Ils amènent l'ânon à Jésus et jettent sur lui leur manteau, et il s'assit dessus. Beaucoup étalaient leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages qu'ils coupent dans les champs. Ceux qui précèdent et ceux qui suivent crient
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. Béni soit le règne qui vient de notre Père David. Hosanna, toi au plus haut des cieux. »
Il entre à Jérusalem dans le temple. Il regarde tout autour, l'heure étant déjà tardive. Il sort pour aller à Béthanie avec les 12.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Avec cette entrée dans Jérusalem s'ouvrent les jours saints. Quel sens Jésus a-t-il donné à cette entrée qu'on pourrait croire triomphale? Et comment la situer par rapport à l'arrestation et la condamnation à mort qui va suivre? 2000 ans après, quel sens y a-t-il encore de mimer dans nos églises cette entrée à Jérusalem? Voilà quelques questions qui peuvent s'offrir à nous.
Regardons où ce texte se trouve. Il est vers la fin de la deuxième partie du récit évangélique de Marc. Après avoir entendu la confession de foi de Pierre, qui reconnaît Jésus comme Messie, le maître a commencé à avertir ses disciples qu'il lui fallait accepter de livrer sa vie. Par trois fois, Jésus annonce cette passion douloureuse qu'il va connaître.
Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite.
Et chaque fois, cette annonce est suivie d'un avertissement. Les disciples connaîtront, eux aussi, le même sort que le maître.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à son moi et qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit serviteur de tous.
Après qu'il aura chassé les vendeurs du temple, aux autorités qui lui demandent de quel droit il agit ainsi, Jésus répondra en racontant la parabole des vignerons meurtriers.
La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Donc lorsqu'il organise lui-même son entrée dans Jérusalem, on peut dire que Jésus n'ignore rien de son destin. Alors comment comprendre cette mise en scène? Eh bien, notons d'abord que cette entrée triomphale, si on peut dire, de Jésus, est rapportée par les quatre récits évangéliques. Et deux sources ont aidé à décrire l'événement. La première est le livre de Zacharie, la deuxième, la fête juive des temples. Comme souvent dans les récits évangéliques, les faits, les gestes de Jésus sont décrits à partir de passages de la Bible. Et ce recours aux textes anciens a pour but de mieux faire saisir le sens des événements. Et là, eh bien, ce sont des passages des chapitres 9 à 14 de Zacharie qui peuvent nous indiquer le sens de notre récit de cette entrée à Jérusalem. Oh, bien sûr, ces textes sont souvent difficiles et obscurs et ils ont été écrits environ 300 ans avant Jésus. Donnons d'abord quelques citations de ces chapitres.
Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il retranchera la charrerie et les chevaux, l'arc de guerre sera retranché, il annoncera la paix aux nations. Ainsi parle le Seigneur, mon Dieu. Fais paître ces brebis vouées à l'abattoir, elles que le racheteur abatte impunément. Alors qu'on les vend en disant « Béni soit le Seigneur, me voilà riche », tandis que leur berger n'éprouve pour elles aucune compassion. Oracle du Seigneur le Tout-Puissant, frappe le berger, les brebis seront dispersées. Il pesa mon salaire 30 sicles d'argent. Dieu me dit, jette-le au trésor ce joli prix auquel ils m'ont apprécié. Je pris donc les 30 sicles d'argent et les jetai à la maison de Dieu, dans le trésor. Moi, Dieu, je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David, en remède au péché et à la souillure. Je l'épurerai comme on épure l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Mon peuple invoquera mon nom et moi je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et lui il dira, mon Dieu, c'est le Seigneur.
Eh bien, qu'est-ce que ces textes annonçaient ? Il disait que malgré le petit nombre de ceux qui sont vraiment fidèles au Seigneur Dieu en Israël, Dieu est toujours proche et il va intervenir en donnant à son peuple un roi pacifique. Ce roi de paix voudra réunir toutes les nations, tous les autres peuples à Israël. Mais ce roi Messie, ce bon berger, sera rejeté par le peuple et son sacrifice, le sacrifice de celui qui aura été transpercé, provoquera malgré tout une conversion du peuple et l'alliance sera de nouveau renouvelée. Voilà le sens possible de ces chapitres de Zacharie. Et au temps de Jésus, ces textes devaient alimenter la réflexion et l'espérance de beaucoup de Juifs fervents. Ils vont donc servir aux disciples pour comprendre le sens de la passion de leur maître. Oui, même s'il annonce son rejet et sa mort, Jésus peut être considéré comme vraiment le Messie. On se souvient d'ailleurs que Jésus s'est appliqué à lui-même l'image du bon berger. Évoquons quelques textes des récits évangéliques.
Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Devant le Fils de l'homme seront rassemblées toutes les nations, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis.
Oui, comme le berger de Zacharie, Jésus va être rejeté. Il l'a annoncé plusieurs fois à ses disciples pendant la montée vers Jérusalem et il va le rappeler à la veille de son arrestation avec précisément les mots de Zacharie.
Jésus leur dit, « Tous, vous allez tomber car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. »
Ce roi, ce bon berger, Israël voudra en effet s'en débarrasser à bas prix pour la somme dérisoire du rachat d'un esclave, celle qui est justement donnée pour le berger dans Zacharie.
Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Enfin, le récit de Jean rappellera le texte de Zacharie pour décrire Jésus sur la croix.
Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.
Jésus était bien sûr imprégné de ces textes de Zacharie, et il est vraisemblable qu'il ait pu vouloir s'en servir pour donner le sens de son entrée dans Jérusalem. Mais on trouve dans la liturgie de la fête des tentes, une fête juive, une autre source d'inspiration. Lors de cette fête, la plus populaire des fêtes religieuses, on faisait en effet des processions, au cours desquelles l'assemblée agitait ce qu'on appelle le lulab. Le lulab était un bouquet composé de palmes et de branches de saule. Ces lulades étaient parfois appelées même des hosanna. Hosanna qui est un mot araméen qui signifie « sauve » et qu'on traduirait familièrement « au secours ». La procession était marquée par le chant du Hallel. Le Hallel est un groupe de psaumes qui comportait notamment le psaume 118, celui qui est repris précisément dans notre récit.
« Ouvre-moi les portes, j'entrerai pour rendre grâce au Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. De grâce, Seigneur Dieu, hosanna, donne le salut. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur Dieu. » Formez le cortège, rameaux en main, jusqu'auprès de l'autel.
Béni soit au nom du Seigneur Dieu, celui qui vient. Eh bien, ce verset du psaume était probablement chanté par les prêtres à l'entrée du temple. Il signifiait qu'il donnait au nom de Dieu la bénédiction sur ceux qui venaient vers Dieu en pèlerinage. Dans ce cortège qui accompagne Jésus, ce verset du psaume prend une autre signification, non plus celle de bénir au nom de Dieu, mais pour dire « Béni soit Jésus, celui qui vient au nom de Dieu ». Cette fête des tentes était d'ailleurs devenue la fête de l'attente du règne de Dieu, l'attente d'un Messie. « Béni soit le règne qui vient de notre Père David ». À l'époque de Jésus, c'était surtout le peuple qui attendait la restauration de la royauté de David, espérant la consécration d'un des descendants de David comme Messie. On trouve cette espérance dans un psaume du recueil de Salomon.
« Seigneur, regarde-nous, fais que se lève à nouveau pour eux leur roi, le fils de David. Il rassemblera alors un peuple saint qui gouvernera dans la justice. »
Et c'est aussi ce que dit la version palestinienne de la plus officielle des prières juives, qui est la prière des 18 bénédictions.
« Fais miséricorde, Seigneur Dieu, à Israël ton peuple, et au règne de la maison de David, Messie de ta justice. »
Les textes de Zacharie et ceux de la fête des tentes se rejoignent donc pour décrire Jésus comme étant le fils de David, le Messie attendu. Et le fait pour Jésus de monter un âne conduit également dans ce sens. L'âne, certes, était le moyen de transport le plus commun, et l'on en trouvait souvent aux portes de la ville qui pouvaient être empruntées facilement par ceux qui en avaient un besoin passager. Mais l'âne était surtout dans la tradition la monture royale et donc celle du roi Messie. Cet âne sera d'ailleurs un jeune animal qui n'a pas encore servi comme monture, peut-être parce que la bête destinée à un usage sacré devait être encore vierge de tout autre usage. On trouve trace d'ailleurs d'une telle coutume dans le livre du Deutéronome.
Voici les dispositions de la loi que le Seigneur Dieu a prescrites. « Dis au fils d'Israël de t'amener une vache rousse, sans tare ni défaut, une bête qui n'a pas porté le joug. Vous la remettrez au prêtre. »
Par ce geste, Jésus se présente donc encore comme le roi Messie consacré par Dieu. Mais ce Messie, fils de David, vient comme l'humble serviteur de Dieu et comme le prince de la paix. Le récit de Luc nous dit qu'en approchant de Jérusalem, Jésus va pleurer sur elle en disant « Ah si, en ce jour, tu avais compris toi aussi le message de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. » Et enfin, le récit évangélique de Jean explicitera que cette paix ne sera pas accueillie, bien sûr, par tout le peuple, mais que les disciples pourront en vivre dans la mesure de leur communion avec Jésus.
« Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette entrée à Jérusalem est-elle vraiment décrite comme triomphale?
Eh bien, si l'on poursuit le récit de Marc, nous allons trouver trois textes qui vont éclairer cette entrée de Jésus à Jérusalem. Le premier de ces textes est le figuier stérile, puis nous aurons la purification du temple et enfin la parabole des vignerons meurtriers. Quel lien y a-t-il entre ces textes et notre récit de l'entrée à Jérusalem? Dans la Bible, le figuier, comme la vigne d'ailleurs, est le symbole du peuple de Dieu. Or Jésus va jouer un mime symbolique comme le faisaient les prophètes en se lamentant devant un figuier qui porte des feuilles mais qui n'a pas de fruits. On trouve une telle lamentation dans la bouche du prophète Jérémie, et cela pour décrire l'infidélité des fils de Dieu qui ne vivent pas l'essentiel de la Torah, cet essentiel qui est la justice et la solidarité.
Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier, même le feuillage est flétri. Changez sérieusement votre conduite, n'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Pouvez-vous commettre le vol, le meurtre, courir après d'autres dieux, puis venir vous présenter dans cette maison et dire « Nous sommes sauvés » et continuer à commettre toutes ces horreurs. Prenez-vous cette maison pour une caverne de bandits.
Et l'image de la caverne de bandits sera reprise par Jésus lors de la purification du temple. Que signifie-t-elle? Eh bien, de la même maison, de la même façon que des bandits se mettent à l'abri d'une caverne après leurs méfaits, ainsi il y a des fidèles qui n'agissent pas selon la règle d'amour de la Torah et qui se pensent à l'abri du jugement de Dieu pour la raison qu'ils offrent de sacrifices au temple. Eh bien, voilà un écho au rappel incessant des prophètes qui crient que Dieu veut d'abord la miséricorde et non pas les offrandes. C'est d'ailleurs le même enseignement qui se trouve dans la réponse d'un scribe, réponse dont Jésus dira qu'elle est celle de quelqu'un qui est proche de Dieu.
« Maître, tu as dit vrai. Dieu est unique et l'aimer de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même. Cela vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. »
Enfin, la parabole des vignerons meurtriers va évoquer le rejet des prophètes tout au long de l'histoire d'Israël. Parce que les prophètes dénoncent précisément le manque de fidélité et de droiture à la Torah, les chefs les font taire. Eh bien, il en sera de même pour ce dernier prophète qui est le fils bien-aimé du maître de la vigne. Il sera rejeté et tué. Et Jésus évoque alors le texte du psaume 118, un psaume de la fête des tentes, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de fête. Enfin, ajoutons qu'à l'époque de Jésus, cette fête des tentes était le lieu où l'on mimait et intronisait un Messie, et ce Messie que l'on introduisait était le Messie souffrant. Alors, eh bien, cette entrée à Jérusalem n'est pas celle d'un Messie triomphant, c'est celle du Messie souffrant, et cette entrée dans Jérusalem se poursuivra par une autre procession qui conduira le Messie au calvaire. Ainsi, nous voyons qu'en allant à Jérusalem, Jésus savait qu'il marchait à la mort. L'Évangile rappelle sans cesse que Jésus a choisi le moment et le sens à donner à sa mort.
Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Et dans le récit évangélique de Jean, Jésus dira « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Alors pourquoi a-t-il choisi d'aller ainsi se livrer à ceux qui voulaient sa mort? Jésus avait cette certitude de foi que ce sacrifice de lui-même le conduisait à la véritable vie. Reprenant encore le psaume 118, il pouvait dire « Le Seigneur Dieu est pour moi, je ne crains rien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Les derniers temps de Jésus sont remplis de cette espérance affirmée.
« Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix. » Qui veut sauver sa vie la perdra, qui perd sa vie la sauvera.
Et cette espérance avait d'ailleurs été confirmée à Jésus par Dieu sur la montagne de la Transfiguration et confirmée aussi pour ses disciples. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est pourquoi Jésus pouvait annoncer sa résurrection.
Ils bafoueront le Fils de l'homme, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera.
Thank you.
Oui, mystère, mystère que cette mort qui conduit à la vie. Jésus décrira cela sous l'image du grain de blé.
Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance.
Mystère que ce rejet par les puissants de ce monde qui mène à construire, à bâtir le règne avec Dieu.
Heureux les pauvres, les humbles, le règne de Dieu est à eux. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, je les attirerai à moi tous.
Et cela est vrai de Jésus, qui depuis 20 siècles rassemble tant et tant de disciples. Au long de l'histoire, nous trouvons d'ailleurs des exemples de ce paradoxe. Songeons tout récemment à Nelson Mandela, qui lui aussi a été rejeté pendant 2 décennies, exilé sur une île, et qui est finalement devenu le père de son peuple. On peut penser aussi à plusieurs des théologiens qui ont fait véritablement le Concile Vatican II, alors qu'ils avaient été marginalisés et même parfois réduits au silence par Rome seulement quelques années auparavant. Oui, paradoxe, que ce qui est force aux yeux du monde est faiblesse, et inversement. Ainsi, Jésus dira que l'argent est un mammon, c'est-à-dire quelque chose de trompeur, parce que tant de gens pensent pouvoir assurer par lui leur existence, alors qu'on ne peut vraiment donner un vrai sens à sa vie avec l'argent, comme le dit si bien ce texte de Éric Emmanuel Schmitt.
L'argent n'a pas de valeur, l'argent ne rend pas riche, l'argent rend pauvre. Le plus important est d'apprendre à être. Mais il est plus facile de faire de l'argent, plus facile d'avoir que d'être.
Et être, c'est avant tout aimer, d'un véritable amour, qui est aussi paradoxal, comme le dit cette phrase de Lévinas, « Seul un moi vulnérable peut aimer son prochain ». Et Éric Emmanuel Schmitt commente ainsi ce paradoxe de l'amour.
Cette vulnérabilité de l'amour recèle une grande force. Aimer, c'est aimer une liberté. Aimer quelqu'un de libre, quelqu'un qui peut partir, trahir. Aimer, c'est un risque. J'aime avec le sentiment intense de la fragilité. L'amour est solide, mais entre 2 personnes fragiles. Je suis fragile. L'être que j'aime peut être fragile. Mais l'amour est ce qu'on a de plus fort. L'amour est quelque chose de plus que soi. C'est le ciment du rapport entre les êtres, le ciment même de l'existence.
Et c'est parce qu'il est l'amour absolu, infini, que Dieu lui-même est fragilité, comme le dit si souvent Maurice Zendel. C'est parce qu'il est à l'image du Père divin que Jésus sera lui aussi fragilité et que sa vie ne pourra être que vulnérabilité, une vulnérabilité qui le conduira à livrer sa vie. Parce qu'il a aimé jusqu'à l'extrême, Jésus a donc couru le grand risque de l'amour, celui du rejet par ceux qui se sentent et qui se pensent puissants. En acclamant le règne de Dieu qui vient en Jésus, les petits et les pauvres acclamaient celui qui allait témoigner de l'amour divin en mourant sur la croix. Oui, il ne peut y avoir que les petits et les pauvres qui puissent découvrir l'amour divin dans le crucifié, car tous ceux qui ont fait de la puissance la vérité de leur vie, pour eux, le crucifié ne peut être que scandale ou folie. Alors, à partir de cet amour de la croix, la distinction n'est pas entre juifs et païens, entre un peuple de Dieu auquel on appartiendrait par naissance et les autres peuples. Non. La distinction se fait entre les cœurs de pauvres et les cœurs de riches, de puissants, entre ceux qui accueillent l'amour dans la conscience de leur petitesse et les autres. Ainsi, Jésus ne sera pas le Messie qui chasse les païens pour redonner la liberté aux Juifs, mais il sera Messie dans la mesure où il va ouvrir la maison de Dieu aux humbles de tout pays, de toute race, de toute croyance. Ma maison sera maison de prière pour toutes les nations. L'apôtre Paul écrira cela aux chrétiens d'Éphèse.
C'est lui, Christ Jésus, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Il a voulu, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul être et les réconcilier au moyen de la croix.
La passion de Jésus ne marque pas le rejet du judaïsme pour que naisse une église chrétienne. Il marque le rejet des puissants de ce monde et la naissance en Jésus d'une humanité des pauvres et des miséricordieux, Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Revivre le chemin de Jésus, c'est témoigner que la distinction n'est pas tant entre les chrétiens et les autres qu'entre ceux qui ont choisi la puissance, l'argent, la force et ceux qui bâtissent leur vie sur l'amour, sur la pierre rejetée, devenue pierre de fête. Comme l'a si bien décrit l'apôtre Paul, l'amour vrai qui est divin se déploie dans la faiblesse.
Le Seigneur Jésus m'a déclaré « Mon amour gratuit te suffit. Ma puissance d'amour donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je ma fierté bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Ce mystère et ce paradoxe qu'est l'amour ne peut être vraiment expliqué, démontré. Non, il faut qu'il soit compris de l'intérieur par un cœur qui est lui-même entré dans ce chemin d'amour. On ne peut saisir la résurrection que si l'on a soi-même commencé à expérimenter la croix. On ne peut chanter « Christ est ressuscité » que si la joie de Jésus est entrée dans notre vie, parce que nous avons ouvert notre cœur à l'amour humblement.
Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ses amis. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'était « Du pain sur la table », une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
« Du pain sur la table » est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.